de éthique pour la primaire Dominique Philippe, le 15 février 2002 à Saint-Judas.
L'éthique religieuse, nous l'avons vu, transforme notre demande que notre amitié soit transformée. On a vu ça déjà. L'éthique religieuse demande que notre prudence humaine soit transformée. La prudence, c'est la réflexion sur, à partir de notre finalité, sur les moyens que nous avons, les moyens internes et externes, en vue d'atteindre avec la plus grande efficacité notre finalité. Notre finalité d'adoration, de contemplation de Dieu, notre finalité d'amitié, notre finalité, nous allons le voir, aussi politique du bien commun. Et donc, il y a transformation, une espèce de modification très profonde qui se fait par rapport à notre fin, puisque dès que nous découvrons Dieu, nous le découvrons comme celui qui est le Père de notre âme. Le mystère de la création demande une intervention directe de Dieu, créant notre âme. Et il n'y a pas d'intermédiaire possible. Dieu seul, comme Père de notre âme, nous pouvons le dire, parce que la création de notre âme implique qu'il y ait pour nous-mêmes une finalité divine. Quelle sera-t-elle exactement en pure éthique religieuse? Elle est très difficile à préciser. On peut savoir que Dieu finalise toute notre vie. Voilà, ça, nous pouvons l'affirmer. Et les moyens de cette finalisation ne sont pas précisés en éthique religieuse. Le mystère de la foi échappe à l'éthique religieuse, c'est sûr. Ce sont tous ceux qui ne vivent pas de la foi et qui peuvent, par une réflexion humaine, à la fois philosophique et prudentielle, reconnaître que Dieu existe et qu'il faut l'adorer. Et donc, la prudence religieuse consiste d'abord à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû, l'adoration et la contemplation humaine. Il y a une certaine contemplation naturelle. Jusqu'où va-t-elle? C'est difficile à préciser. Mais y a-t-il une mystique naturelle? C'était les grandes questions à se poser. Olivier Lacombe, à propos de l'Inde, on peut se poser la question à propos de Plotin. Est-ce que Plotin, qui parle de Dieu avec une conviction naturelle très profonde, et cette conviction naturelle, au dire de ses contemporains, a été jusqu'à une certaine extase. On dit que Plotin, on l'a trouvé 3 jours en extase. Plotin n'a rien écrit de lui-même. Hein. C'est son disciple qui a écrit. Ça reste très mystérieux. Hein. C'est très difficile de préciser. Il y a eu un moment autour de Maritain, un petit groupe de gens qui ont réfléchi sur la question de la mystique naturelle. Donc ça entre directement dans le problème que nous posons. Est-ce que dans la prudence religieuse, on doit respecter cette mystique naturelle ? Jusqu'où va-t-elle ? Ça reste, je crois, un problème ouvert. Ils n'ont rien de précisé. Ils ont donné des exemples. Et l'exemple de Plotin est évidemment un des exemples les plus étonnants. Plotin a écrit chose très belle. Tout ce passage où Plotin interpelle l'homme en disant « Que fais-tu, toi qui es une âme immortelle, une âme capable de contempler, et tu t'occupes de choses purement matérielles ?» C'est une espèce de prédication qui présuppose vraiment une certaine expérience du divin, de Dieu. Alors, ça reste un gros problème qu'il ne faut pas traiter à la légère. Je crois que c'est important au moins d'y réfléchir et de voir que la connaissance que nous pouvons avoir Dieu, naturellement, nous invite à l'adorer. Et l'adoration nous invite à voir dans quelle mesure pouvons-nous contempler Dieu. Contemplation naturelle, contemplation métaphysique, mais pas métaphysique, contemplation philosophique. Toute la métaphysique est faite pour ça. Pour contempler naturellement Dieu. Et notre intelligence, dans la mesure où nous pouvons contempler Dieu naturellement, acquiert une profondeur toute spéciale. Si nous avons le courage de mettre du temps à cette contemplation, évidemment, en tant que chrétien, nous dépassons ça. Mais le christianisme ne détruit pas la nature humaine. N'oubliez jamais ça. La foi ne détruit pas l'intelligence humaine dans ce qu'elle a de plus noble, de plus grand. Au contraire, elle l'ennoblit. Et donc, s'il y a une contemplation naturelle de Dieu, la contemplation surnaturelle n'enlève rien à ce désir qui doit se réaliser dans une certaine contemplation de Dieu. Qu'elle soit très rare, mais elle peut exister. Le cas de Plotin est une chose particulière. Bergson aimait énormément Plotin parce que lui-même a été saisi par cela. Bergson s'est-il converti au christianisme? C'est très possible, mais ça n'a pas été officiel parce que c'était du temps du nazisme avec la persécution du peuple juif. Et Bergson ne voulait pas se désolariser. Il voulait rester avec ses frères persécutés. C'est un cas très, très beau, du reste, et très grand. Il semble qu'il y ait eu comme une apparition de Marie à sa fille. Et à lui-même aussi. Ça, ce sont des faits qui sont importants parce que ça nous fait poser un point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est que cette contemplation naturelle de Dieu? Nous la voyons puisque nous faisons une théodicée. Et dans la théodicée, nous essayons de voir ce que le philosophe, comme philosophe, peut dire sur Dieu. Il ne peut le dire que dans une contemplation naturelle. Et la contemplation naturelle de Dieu fortifie, ennoblit notre intelligence. Notre intelligence humaine est faite pour cela. Et la foi et la grâce ne supprime pas cet appétit naturel de l'intelligence. Quand l'intelligence humaine est au service de la foi pour la théologie, il est très important pour l'intelligence métaphysique de s'achever dans une contemplation naturelle de Dieu. Les théologiens diraient moins de bêtises s'ils respectaient ça. C'est-à-dire s'ils respectaient que l'intelligence humaine, par elle-même, peut contempler Dieu. C'est très imparfait comme contemplation divine, mais c'est très grand pour l'intelligence naturelle, d'arriver à pouvoir vraiment contempler Dieu. Ce que nous faisons en théodicée, c'est cela. Vous voyez, c'est une contemplation naturelle. Je ne peux parler de Dieu qu'en le contemplant. Je ne peux pas parler de Dieu autrement que dans le contemplant. Donc quand j'essaie de saisir les différents attributs de Dieu, c'est le fruit d'une contemplation naturelle. Alors, y a-t-il une mystique naturelle? Ce serait purement gratuite. Je crois qu'on peut contempler naturellement Dieu, mais vivre dans l'intimité, puisque c'est ça que ça suppose, une mystique naturelle de Dieu. Ça reste un point d'interrogation. Je ne veux pas traiter cette question-là ici. Ce serait trop particulier. Mais il faut la signaler parce que ça modifie notre prudence naturelle. La prudence naturelle doit tenir compte de ça. Mon intelligence est capable d'atteindre Dieu. Mon intelligence est capable d'une certaine contemplation de Dieu et des attributs de Dieu. C'est pour ça que nous faisons un cours de théologie naturelle. Pour rappeler ça, ça ne se fait plus. Ça ne se fait qu'ici. Ça ne se fait plus. C'est très, très dommage. Parce que l'intelligence humaine ne va pas jusqu'au bout de sa noblesse. La grande noblesse de l'intelligence, c'est de pouvoir contempler Dieu naturellement. C'est de pouvoir établir une théologie naturelle. Et ça donne envie de vivre cette théologie chrétienne d'une manière autre que la plupart du temps elle est vécue. C'est montrer l'appétit naturel de l'intelligence à l'égard de Dieu. Et notre intelligence a cet appétit naturel à l'égard de Dieu. Mais il faut l'éveiller. Il faut l'éduquer pour ça. Alors, poser au moins la question avec un grand point d'interrogation quand il s'agit d'une mystique naturelle. La prudence naturelle, religieuse, doit par le fait même orienter toute notre vie morale vers Dieu. Je suis fait pour Dieu et mon intelligence doit transformer tout ce qu'elle connaît à partir de cette connaissance naturelle de Dieu. Donc c'est le rayonnement de mon intelligence pratique qui est faite pour Dieu, qui fait que toutes les vertus morales, toute notre vie morale est changée. Puisque la prudence consiste à préciser notre finalité propre et de voir comment nous pouvons ordonner toute notre vie pratique, notre vie de justice, notre vie de tempérance, notre vie de force, toutes ces vertus naturelles qu'on a tellement de peine à acquérir. Toutes ces vertus sont dès qu'il y a une certaine connaissance de Dieu, une connaissance naturelle de Dieu, toutes ces vertus s'ouvrent. Elles ne s'orientent pas directement sur Dieu, elles ne peuvent pas. Je ne peux pas être tempérant à l'égard de Dieu, ça ne signifie rien du tout. Mais je peux être tempérant pour Dieu. C'est différent. Et c'est vrai. En morale religieuse, le pour Dieu finalise toute ma vie morale. Ne la transforme pas directement, à la différence du point de vue chrétien. Toute ma vie morale est transformée directement par la charité. Bien sûr, au point de vue chrétien, je ne peux pas être tempérant sans l'amour de Dieu. Je ne peux pas être fort sans l'amour de Dieu. Vous voyez, c'est la grande différence entre ce que nous voyons, une éthique religieuse, et une éthique chrétienne. Ça, c'est très important de bien voir la différence. Parce que on dirait moins de bêtises quand on voit la différence. Ne faisons pas de l'éthique religieuse une éthique chrétienne. Personnellement, si nous sommes chrétiens, notre éthique religieuse est entièrement assumée par notre vie chrétienne. Mais au point de vue philosophique, distinguons les deux. L'éthique religieuse, c'est la manière dont l'affirmation que Dieu existe va transformer ma prudence. Et ma prudence s'exerce sur les différentes vertus. Vous voyez, c'est, je dirais, pour être plus précis, je dirais, dans la théologie religieuse, ma finalité est nouvelle, puisque je suis fait pour Dieu. Mais cette finalité ne transforme pas la nature des vertus morales, mais fait que ces vertus morales soient ordonnées à l'adoration et à la contemplation naturelle de Dieu. C'est plus un ordre d'intention qu'une transformation des vertus. Et cet ordre d'intention enveloppe en quelque sorte toute notre vue morale. Notre vue morale est enveloppée par le mystère de l'adoration. Alors, il n'y a pas de modification directe, mais par la finalité. Et par la finalité, l'exercice même de la prudence, l'exercice même de la tempérance est changé. Alors, on peut se poser la question, est-ce que, en éthique, religieuse, pouvons-nous parler d'une vie religieuse? Pouvons-nous parler d'une consécration de notre état, de l'état virginal pour Dieu? En vie chrétienne, nous le savons bien. Est-ce que, dans une éthique religieuse, on peut parler d'un état religieux? J'aimerais savoir vos réflexions là-dessus. Ce serait très intéressant. Parce que peut-être que vous n'y avez jamais réfléchi là-dessus. C'est très bien. C'est un peu normal que vous n'ayez jamais réfléchi là-dessus. Mais il faut y réfléchir, toujours pour mieux comprendre ce que l'aspect religieux, l'aspect chrétien apporte à l'aspect religieux. L'aspect chrétien présuppose l'attitude religieuse. Et l'aspect chrétien transforme l'attitude religieuse. Mais jusqu'où se fait cette transformation? C'est-à-dire jusqu'où l'aspect religieux peut aller? C'est la question que nous nous posons. Alors, on va me dire, oh, c'est pas pratique, c'est pas, si je suis chrétien, je ne me pose pas ces questions-là. Parfaitement, vous devez poser cette question-là pour être limpide dans votre vie chrétienne. Des quantités de gens ne se posent pas la question. On ne va pas faire un catéchisme sur l'aspect religieux indépendant du point de vue chrétien. Mais au plan philosophique, je dois le faire pour comprendre ce que c'est que l'éthique, pour comprendre ces niveaux différents que je vous ai donnés au point de départ. L'éthique purement humaine, l'éthique religieuse, l'éthique chrétienne. Vous avez trois dimensions au point de vue moral. Et les trois dimensions, elles existent toujours. Elles sont transformées par notre vie chrétienne, c'est évident, mais elles existent. Et c'est très important dans notre enseignement. Parce qu'on devra enseigner des gens qui ne sont pas chrétiens, qui viendront vous demander des conseils. en disant je ne suis pas chrétien et je me pose ces questions. Donc, l'éthique religieuse, qui n'est pas l'éthique chrétienne. Ne demandez pas à quelqu'un qui vit religieusement, mais qui n'est pas chrétien, ne demandez pas quelque chose qui est propre à la vie chrétienne. Si vous demandez quelque chose qui est propre à la vie chrétienne à quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais qui a une âme religieuse, vous lui faites du mal, sans le savoir. On doit être très conscient de cela. Vous voyez ? C'est vraiment une des distinctions que nous devons comprendre. Au point de vue religieux, purement religieux, il peut y avoir des vœux de religion. Du reste, on les appelle des vœux de religion. Vous voyez, les vestales, ceux qui étaient consacrés à Dieu. Ça peut se faire, c'est pas impossible. Dans des religions qui ne sont pas chrétiennes, on peut trouver ça comme attitude religieuse. C'est pas étranger au point de vue religieux comme tel. Parce que le point de vue religieux regarde Dieu, créateur de mon âme. Dieu, créateur de mon âme, peut réclamer un don total de ce que je suis pour le glorifier, pour lui rendre honneur, pour affirmer son existence. Je n'affirme pas l'existence de Dieu par le mariage. Vous comprenez ce que je dis ? Je ne proclame pas, je ne suis pas témoin immédiatement de Dieu Père par le mariage. Tandis que si je consacre ma vie au Seigneur par un vœu de virginité, je suis témoin de la grandeur de Dieu. Ça, il faut bien comprendre la différence, hein, au point de vue philosophique, hein, et au point de vue pratique. Il faut bien comprendre la différence. Donc, le point de vue de la vie religieuse peut impliquer cette transformation de ma vie morale, organiser ma vie morale autour de la virginité. Je me consacre à Dieu, je me donne à Dieu corps et âme. C'est une attitude religieuse qui se fonde sur le Dieu Père de mon âme, créateur de mon âme, et seul créateur de mon âme. Il y a une relation directe avec Dieu. Si on la prend au sérieux et qu'on désire vraiment la prendre au sérieux, elle peut aller jusque-là. La consécration à Dieu, corps et âme, relève de la création, relève de la vertu de religion. Création et vertu, religion pour adorer Dieu, peut réclamer une orientation de toute ma vie et par le fait même un célibat consacré qui fait que je me donne entièrement à Dieu. Dans la vie chrétienne, c'est cela qui me fait comprendre le sens profond de cette consécration à Dieu. Et si aujourd'hui on demande si vite de s'être relevé des vœux. Ça prouve qu'on n'a pas compris ça. Oui, parce que on devrait saisir que un pacte d'une consécration avec Dieu, c'est quelque chose qui prend toute notre vie et qui directement touche notre âme en tant que créée par Dieu. De sorte que vouloir être relevé de ses voeux, ça prouve qu'on n'a pas saisi la profondeur de ça. Bon, l'Église est très miséricordieuse. Elle nous relève de ça. Elle relève celui qui demande. Mais au fond, c'est exiger de l'Église un acte qui est irreligieux. C'est très grave, au fond. Et l'Église le fait par amour pour nous, par miséricorde. Mais c'est exiger de l'Église un acte contraire à ce qu'elle doit être pour le monde. L'Église doit être gardienne d'une éthique religieuse. Et si la consécration de tout nous-mêmes à Dieu relève d'une éthique religieuse, on voit par le fait même. Mais c'est très étonnant et c'est très important, ça. Ceux qui demandent d'être relevés de leurs vœux, si l'Église accepte, ils ont une conscience paisible. L'Église accepte. L'Église accepte, je veux relever mes vœux. Donc, je peux marier, je peux faire ce que je veux. Attention. Vous avez fait votre contrat avec qui? Avec Dieu. C'est avec Dieu que vous vous êtes consacré. Et vous vous êtes donné entièrement à Dieu. Alors, l'Église fait sa miséricorde parce qu'elle dit, vous n'avez pas compris le sens profond de votre consécration à Dieu. Mais si vous aviez compris le sens profond de consécrer à Dieu, vous ne demanderiez pas d'être relevé de vos vœux. Vous pourriez demander à l'Église, pendant un certain temps, d'être à l'abri d'une communauté caché au désert, mais consacré. C'est la grandeur de la consécration. Et la question du sacrement d'ordre relève directement d'autorité de l'Église. Et elle engage moins directement l'éthique religieuse, c'est typiquement l'éthique chrétienne. Ça me frappe beaucoup aujourd'hui que cet aspect de l'éthique religieuse disparaît. Et on ne regarde que le point de vue chrétien. On oublie que nous avons été créés par Dieu avant de nous consacrer à Dieu. Et nous devons respecter ce lien avec Dieu qui est un lien qui regarde directement Dieu. Alors, Dieu a remis à l'Église le pouvoir de le relever, voyez. Et nous devons comprendre que ce pouvoir est exceptionnel. Et il est toujours à cause d'une de nos faiblesses d'avoir pas compris la gravité et l'importance de nos voeux, de nous donner entièrement à Dieu. Et l'éthique religieuse touche des choses que l'éthique chrétienne présuppose. L'éthique chrétienne ne supprime pas l'éthique religieuse, l'éthique chrétienne l'assume et en montre toute la valeur. Et nous devons saisir l'éthique chrétienne dans son caractère propre à propos de la création de l'âme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est tellement indispensable de regarder ce qu'est une éthique religieuse, puisque nous vivons dans un monde qui, la plupart du temps, au moins pour la France, méprise complètement l'attitude religieuse. Je dis bien méprise. C'est un mépris. Et donc, c'est un grand scandale. On doit être scandalisé de ça. Parce que ce n'est pas respecter Dieu comme père de l'âme. Ce n'est pas respecter ce lien si radical de la création de l'âme. Donc là, il y a quelque chose de très important. Il faut y réfléchir soi-même pour que ce soit quelque chose qui, en nous, est une vérité qu'on porte et qu'on doit transmettre, au moins pour ceux qui peuvent comprendre. Parce que c'est quelque chose de très grand, cette alliance naturelle avec Dieu, avec notre Père, créateur de notre âme. Et Plotin parle de Dieu comme d'un Père. Parce que justement, il a compris ce lien du créateur de l'âme. Et par le fait même créateur de l'âme, il nous réserve une finalité de fils. Préciser, il nous révèle une finalité de fils. Sommes-nous naturellement appelés à vivre la vie de Dieu ? Nous pouvons répondre par la foi que nous ne sommes pas appelés naturellement à vivre la vision béatifique. Naturellement, je ne peux pas dire que ma nature humaine, mais nous sommes appelés à vivre une vie où Dieu est respecté comme créateur, comme roi, comme le maître absolu. Et la vision, voir Dieu face à face, est surnaturelle. On serait dans l'état de quelqu'un qui, d'un juste qui vit en respectant la loi naturelle, en respectant Dieu créateur. Et donc, on aurait une vie correspondante à cette état naturel de dépendance à l'égard de Dieu, d'amour à l'égard de Dieu.